France Culture. Bonjour Ariane Nouchkine.
Bonjour.
Pour ce cinquième et dernier épisode, je voudrais qu'on parle du monde. On n'en a pas beaucoup parlé, du monde, hors théâtre. Or, contrairement à beaucoup d'artistes qui ne veulent pas commenter l'actualité, parfois on leur demande de le faire, ils ne veulent pas. Vous le faites souvent volontiers, même si c'est pour parler du monde tel qu'il ne va pas, mais même souvent vous devancez. Qu'est-ce qui vous meut autant dans le souci du monde? Pourquoi vous êtes toujours autant soucieuse du monde qui vous entoure? Tout le monde n'est pas aussi soucieux que vous l'êtes.
Il y a quand même beaucoup de gens qui sont soucieux du monde, quand même. Et qui n'ont pas, comme moi, la chance ou la charge, je ne sais pas, d'avoir la possibilité d'en parler publiquement. Là, vous me donnez l'occasion de m'interroger là-dessus. Il y a plein de gens qui diraient beaucoup de choses importantes et qui devraient être écoutées de nos dirigeants actuels, même s'ils ne méritent pas ce titre. Et quand je dis dirigeants actuels, je parle aussi de l'opposition, hein, soyons clairs. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont soucieux du monde. Il y a des gens résignés, c'est vrai. Il y a des gens qui se sentent tellement réduits à l'impuissance et au mutisme qu'ils s'en sont... Ils l'ont intégré, ils l'ont... Moi, je suis de celles et ceux qui pensent que l'histoire n'est pas terminée du tout. Je pense que le monde humain, enfin l'humanité en est encore à ses prémices, même si on peut imaginer qu'elle est en train d'accélérer sa fin. Mais ce n'est pas parce qu'une fin éventuelle de l'humanité pourrait, on le sait, advenir, que ça n'en sera pas moins une épopée interrompue. Hein. Je pense qu'on est au début de l'histoire. D'ailleurs, c'est quelque chose, quand je me parle avec des collégiens ou des lycéens, je m'échine à leur répéter, parce que je trouve que pour des jeunes, entendre tout le temps qu'ils n'ont plus rien à faire dans l'histoire, c'est terrible. Je pense que c'est exactement le contraire de ce qu'on devrait leur dire. Mais bon, c'est vrai que voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette fameuse expression, l'alignement des planètes, il y a une sorte d'alignement des démons, comme ça, hein, d'alignement de l'obscurantisme, du totalitarisme, une sorte de goinfrerie et de déchaînement des forces antidémocratiques, anti-humaines, qui nous attristent tous d'ailleurs.
Pas tous, puisqu'il y a quand même une partie des populations qui ont voté. Certains milliardaires proches du président des États-Unis, Donald Trump, théorisent sur l'apocalypse des temps nouveaux. Israël continue son offensive meurtrière à Gaza et en Cisjordanie.
Le Hamas continue son pouvoir de nuisance.
Le Soudan traverse un conflit qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et la famine menace. Vladimir Poutine fait toujours la guerre à l'Ukraine. Le climat continue de se dérégler de telle façon que des incendies ravagent la deuxième ville des États-Unis, Los Angeles, et que des cyclones détruisent Mayotte. Et pendant ce temps, l'extrême droite progresse partout. Voilà quelques exemples qu'on peut donner, on aurait pu les multiplier. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que ça vous fait peur?
Ah oui, oui. Comment pourrais-je ne pas être plus qu'inquiète, d'ailleurs angoissée, et bien sûr que j'ai peur. Mais même dans l'énumération, vous oubliez plein de choses dans votre énumération. Hein. Vous oubliez le Tibet, vous oubliez les Ouïghours, vous oubliez la Chine, enfin, vous oubliez l'Iran, vous oubliez la Turquie, vous oubliez la façon dont l'Allemagne s'était livrée à Poutine, vous oubliez toutes nos erreurs et vous ne parlez pas des erreurs de la gauche non plus. Donc oui, bien sûr, moi j'ai peur, mais ça sert à quoi? Ma peur sert à rien. L'expression de ma peur ne sert pas à grand-chose, si ce n'est que les gens qui vont m'entendre vont dire « bah oui, moi aussi j'ai peur, voilà ». Enfin, donc, je suis obligée de chercher ce qui me permet de vivre. Voilà. Et je pense que tout le monde autour de moi, tout le monde autour de vous, tentent la même chose. Mais malgré les millionnaires dingues...
Milliardaires même. Hein.
Milliardaires. Milliardaires et, ce qui est encore plus grave, hommes de technique dingues et nuisibles. Malgré les vociférations idéologiques, d'où qu'elles viennent, il reste de l'humain. Voilà. De l'affection, il reste de l'amour, il reste de la solidarité, il reste du souci les uns pour les autres. Il ne faut pas laisser partir ça. Ce qui reste d'humain en nous. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour de nous féliciter. Hein. Donc, je répète, moi je cherche ce qui me permet de vivre, c'est-à-dire ce qu'il y a d'humain autour de moi et mon travail. Et je me berce peut-être d'une illusion que notre travail donne quelques heures de force, de raison, de beauté et d'émotion aux 534 personnes qui sont là tous les soirs. En tout cas, une grande partie d'entre eux. Et que nous leur racontons la partie de l'histoire dont ils ont besoin pour comprendre un tout petit peu mieux le désordre de l'histoire qui se joue actuellement. Je dis bien désordre, cette espèce de rembobinement, de retour en arrière dans la cruauté, dans la barbarie, dans l'obscurantisme, dans l'impérialisme, comme je disais, le désir fou d'un pays qui déjà est affligé par un territoire bien trop grand pour elle. Hein, la Russie a un territoire qui est bien trop grand pour être gouvernable de manière harmonieuse et qui va se jeter dans l'aventure criminelle de vouloir conquérir encore plus de territoire. Donc, c'est un désordre. Voilà, c'est un chaos. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La seule chose que nous puissions faire, c'est être des témoins fertiles, c'est-à-dire raconter avec notre art comment ça a commencé, comment ça s'est installé et comment ça a fini par arriver.
En même temps, Yann Mnouchkine, vous avez toujours partagé votre temps entre le théâtre et des engagements citoyens. L'un nourrissant parfois les autres, oui. Et vice-versa. Je pense aux sans-papiers. La cartoucherie a accueilli des sans-papiers en 1996. Vous avez fait une grève de la faim pour la Bosnie en 1995. Encore avant, en 1979, vous avez créé avec Claude Lelouch l'Association internationale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde. Donc, vous n'avez pas fait que raconter et parler. Vous avez agi aussi à votre niveau ou à ce que vous...
Oui, mais bon, comme plein de gens. Voilà, ça, c'est autre chose. Ça, c'est, comment dire, c'est en tant que citoyenne, il y a des causes que j'embrasse. Et puis, on ne peut pas non plus embrasser toutes les causes. Bon, il y a des causes sur lesquelles je ne me suis pas engagée, soit parce qu'elles étaient plus lointaines de mes affinités, soit parce que je n'avais pas le temps, soit on fait ce qu'on peut. Et si vous voulez, dans les gens qui viennent voir nos spectacles et dans ceux qui vous écoutent, il y en a beaucoup qui s'engagent sur certaines causes et qui tentent, comme ce que je disais, c'est de faire que ça ne s'aggrave pas au moins. Voilà. Bon, alors c'est vrai que là, en ce moment, les digues craquent de partout. Les causes sont de plus en plus ardente et cruelle et multiple. Voilà, la première qui me viendrait, évidemment l'Ukraine, mais il y a quelque chose dont on ne parle plus ou pas, et on se demande comment c'est possible, c'est les femmes en Afghanistan. Là, je dirais la tiédeur, pour ne pas dire une quasi-indifférence, d'une partie du mouvement féministe à l'égard des femmes en Afghanistan est tout simplement sidérant. C'est absolument sidérant, c'est-à-dire qu'il est en train de se créer là-bas un mouroir pour les femmes. Hein. La folie talibane est telle que enfermer les femmes dans un sac de tissu n'était pas suffisant. Maintenant, elles sont enfermées dans leur maison, elles sont enfermées dans le silence, elles ne peuvent plus se parler entre elles audiblement, elles ne peuvent plus chanter, elles ne peuvent... Voilà. Et nous, on parle de biveuser, et ça, ce mouroir, un pays entier qui est devenu un camp de concentration, un camp de presque d'extermination pour les femmes, on en parle très peu. Et en même temps, je vous avoue que, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Hein. À part essayer d'extirper, de sortir une femme ou deux femmes de là-bas, en suppliant les ministères compétents et en écrivant des dizaines de lettres et des...
Mais fut un temps, à El-Mouchline, justement, où il y avait une organisation d'intellectuels, d'artistes, oui, même... mobilisation plus exactement. C'était pas seulement des mots, il y avait des pétitions, mais il y avait aussi des actions faites en défense de personnes, de causes. Est-ce que ça appartient au passé? C'est fini?
Non, je peux pas. Alors ça, je peux pas penser ça. Je peux penser, oui, qu'il y a des glissements, il y a des erreurs intellectuelles. Des censures idéologiques, des je ne sais quoi, qui enlèvent la netteté d'un propos. Hein. Libérer Boualem Sansal, on n'a pas besoin de oui, mais après.
Boualem Sansal, à l'heure où nous parlons, est un écrivain français et algérien.
Qui a été arrêté en Algérie pour ses écrits, pas pour une action, pas pour une. Non, parce qu'il a soi-disant. Attaquer le régime algérien, qui est un régime totalitaire, enfin, dictatorial et théocratique. Pourquoi c'est pas net? Pourquoi c'est pas net? D'ailleurs, pourquoi moi-même j'ai attendu là, en ce moment, que quelqu'un est en train de faire son portrait pour afficher son portrait sur notre façade? Il a fallu une pétition que j'ai vue avant-hier, de quelqu'un qui se mettait en rage. Il dit, mais quand même, les intellos, les gens de théâtre, qu'est-ce que vous attendez pour mettre le portrait de Boualem Sansal? Et je me suis dit à moi-même, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu as attendu? Pourquoi tu as attendu ça? Je l'ai fait pour Navalny. Pourquoi je ne l'ai pas fait pour Sansal? Pourquoi je n'ai pas immédiatement pensé, voilà, on fait son portrait, on le met sur notre façade? Donc, il y a quelque chose de gluant. En plus, non seulement il y a toutes les catastrophes, toutes ces prises de pouvoir, tous ces monstres qui montent sur des trônes, élus ou pas, mais il y a quelque chose de gluant parmi nous qui trouble la simplicité et la transparence de nos engagements pour telle cause. Il n'y a pas de mais. Pour les femmes afghanes, il n'y a pas de mais. Pour le 7 octobre, en Israël, il n'y a pas de mais. Pour la folie du gouvernement d'Israël à Gaza, il n'y a pas de mais. Il y a les deux. Il y a le 7 octobre, un pogrom inimaginable. Et il y a effectivement l'ivresse de vengeance du gouvernement d'Israël. On doit penser les deux. L'un n'atténue pas, ne tiédit pas. L'autre. Admettre la complexité, ça n'est pas accepter tous les tortillements pour éviter de dire ce qui est. On peut dire ce qui est, et il y a des choses contradictoires, c'est vrai. Hein, il y a un drame ici, et il est le reflet, ou la conséquence, ou la cause, ou de l'autre. Mais je répète, il y a quelque chose de la simple franchise qui nous manque en ce moment. Comme si il fallait effectivement tourner notre langue cette fois dans notre bouche par peur d'être accusé de ceci ou de cela, et que quelqu'un qui est de ce bord-ci nous dise que nous sommes le pire de l'écume humaine, ou quelqu'un de l'autre bord nous dise que nous sommes à mettre dans les poubelles de l'histoire. Et donc... Il y a des silences qui sont comme une sorte de signe de la désertification de la compassion. Et la compassion, ce n'est pas un concept gnangnan ni chrétien. Hein. La compassion, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire être capable d'imaginer la souffrance de l'autre. Donc, tout ça pour que vous me disiez que j'étais une citoyenne. Oui, je suis une citoyenne comme une autre qui a parfois la chance qu'on lui tende un micro pour qu'elle parle. Mais il y a beaucoup, beaucoup de citoyennes comme les autres qui aimeraient bien soulager leur cœur ou leur conscience et dire ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire cette impression que il y a quelque chose de sticky, on dit en anglais, de collant, de gluant, qui nous empêche d'avoir une voix claire pour dire, pour crier parfois, sans qu'immédiatement des mais multiples tentent d'étouffer cette parole d'inquiétude, parfois d'impuissance.
Dans cette énumération partielle de l'état du monde qu'on a faite au début de l'émission, Ariane Mnouchkin, on n'a pas parlé de la situation politique française. Or, j'ai écouté les avois nues que vous aviez faites en 1998, avant de venir vous voir. Et il se trouve que dans ces avois nues, vous parliez beaucoup du Front National. Vous parliez beaucoup de l'alliance possible de la droite avec l'extrême droite. On est donc avant 2002 et la victoire de Jean-Marie Le Pen devant Lionel Jospin. On est à un moment où Jean-Marie Le Pen est mort, il vient de mourir, mais son mouvement a considérablement progressé dans les têtes et dans les urnes. Comment regardez-vous ces quelques 30 ans qui viennent de s'écouler de ce point de vue-là ?
Écoutez, moi, je ne sais pas si je peux vous parler des 30 ans. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un cauchemar. Hein ? Et c'est ce cauchemar que je vois arriver. Et ce cauchemar, je vais vous le dire sans rien ni de collant ni de gluant, c'est Mélenchon-Le Pen au deuxième tour. Voilà. Et je pense que si on continue, si nos hommes politiques ou femmes politiques continuent à jouer comme ça, hein, au petit jeu auquel ils jouent, c'est ce qui va se passer. C'est, si vraiment M. Macron, par sa faute, est poussé à la démission, c'est ça ce qui va arriver. On va se retrouver avec Mélenchon-Le Pen, ce qui pour moi est un cauchemar. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc ça, c'est jouer au foot avec quelque chose qui s'appelle la démocratie et qui est quelque chose d'extrêmement fragile et qui est loin d'être sans défaut ni sans faille. Mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on a trouvé de mieux.
La démocratie.
Oui. Et dans une situation où on voit la démocratie comme dans un film, hein, être fondue, comme ça. C'est comme si... Bon, démocratie fondue aux États-Unis. Démocratie pas vécue en Russie. Totalitarisme total en Chine, démocratie pas vécue en Iran. Enfin, donc au moment où on voit hein, tout ça, même l'Italie, etc. On voit tout. Et nous, il y a des espèces de petits calculs sur les futures élections municipales. Le Parti socialiste calcule avec « oui, mais si on fait ci, on va à ce moment-là, on risque au municipal. » C'est à sangloter. Bon, peut-être là, on devient café du commerce.
En tout cas, on ne va pas se laisser sangloter.
Attention, il ne faut pas me laisser partir.
En tout cas, on ne va pas se laisser sangloter. Non, je voudrais reprendre sur le rêve et donc voilà. Sur le théâtre, et en particulier sur la transmission. La transmission, Ariane Mnouchkin, au Théâtre du Soleil, elle passe par quelque chose que vous avez appelé l'école nomade. L'école nomade, c'est le Théâtre du Soleil au Chili, en Afghanistan, en Suède, en France aussi, à Amiens, à Mayotte, en Inde, en Afrique du Sud, en Ukraine. Des films ont été faits. L'idée, c'est de transporter la troupe du Théâtre du Soleil ailleurs pour faire des stages auprès des jeunes.
Vous venez de dire l'école nomade. En fait, là, effectivement, vous avez raison. La première, ça ne portait pas encore le nom d'école nomade, mais c'était déjà l'école nomade. Et en fait, c'est vrai, la première était à Kaboul. À ce moment où on pouvait espérer. Voilà. On pouvait espérer que les alliés, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, nous, nous écarterions comme ça un tout petit peu la chape de la théocratie et que l'Afghanistan se verrait aidé économiquement, stratégiquement, avec des routes, des écoles, enfin, et que ça donnerait aux gens normaux la possibilité de retrouver le chemin d'un pays vivable. C'était très court, cette période. Ça doit être en 2005, nous, alors 2006 ou quelque chose comme ça, 2006.
Il y a eu un film fait de cette expérience, oui, en 2007.
Voilà.
Mais qui s'intitule Un soleil à Kaboul.
Et même, ou même deux.
Ou plutôt deux.
Plutôt deux.
Sur la création de jeune troupe de théâtre afghane.
Exactement, afghan. Parce qu'en fait, cette école de maths a donné lieu à la création d'une troupe afghane qui s'est appelée tout de suite le théâtre Aftab, c'est-à-dire Soleil. Et en fond, bon, très vite, malheureusement, il s'est avéré que ils pouvaient de moins en moins jouer là-bas, que c'était de plus en plus dangereux. Donc on les a fait venir en France, ils ont été à l'ANSAT à Lyon. Et puis maintenant, la plupart d'entre eux jouent avec nous. Ils parlent parfaitement le français, ils ont leurs papiers, ils sont français, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et tout va bien. Donc ça a été une expérience très belle et qui fait que depuis, le rapport entre le Théâtre du Soleil et l'Afghanistan est resté durable. Hein. Donc après, c'est devenu l'école nomade, parce que c'est quelque chose que nous avions envie de faire. C'est-à-dire, on se disait, parce qu'on nous posait beaucoup de questions, comme vous l'avez fait au cours de ces émissions, sur comment on travaille, comment on arrive à faire ce qu'on fait, etc. Et comme toujours, moi, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Nous nous étions dit, le mieux, c'est d'aller partager 15 jours, 3 semaines, parfois même un mois. Au Chili, ça a duré un mois. On fait ça, on travaille avec eux comme nous, nous travaillons. Pour faire tomber cette espèce de monument du travail du Théâtre du Soleil, qu'ils voient que c'est pas un monument, c'est un travail de tous les jours. Et plutôt, je dirais, fondé sur la simplicité, la crédulité, l'innocence du jeu, l'enfance et la permission. C'est-à-dire, quand je dis la permission, c'est-à-dire qu'au fond, en répétition, il n'y a rien d'interdit. On peut être sacrilège en répétition, on peut se tromper en répétition, on peut faire... Du moment que, en représentation, non. Il y a des choses à respecter, des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas faire, etc. Mais en répétition, pour qu'il y ait cette liberté de création, il ne faut pas qu'il y ait peur d'une censure. Voilà. Donc, et on s'est mis à faire ça, effectivement. Dans de nombreux pays. Oui, dans de nombreux pays.
Jusqu'en Ukraine, en 2023, pour un stage à Kiev.
En Ukraine, c'était la dernière qu'on ait faite. C'était très intéressant, parce qu'on était avec des jeunes. Il y avait 140 jeunes comédiens et comédiennes qui venaient d'un peu partout en Ukraine, de certaines écoles, et qui étaient, je leur ai dit, donc je peux le dire, ils le savaient, qui au fond avaient une formation très bonne. Est très soviétique. La tradition des écoles de théâtre russes était encore très prégnante. C'était très... Et donc, justement, en fait, ceux qu'ils ont eu le plus de mal à comprendre et dont ils ont mis un peu de temps à s'emparer, c'est cette fameuse liberté. Et ils le disaient. Ils disaient, mais nous, on nous dit exactement le contraire de ce que vous dites. On nous dit qu'il faut qu'on pense, qu'il faut qu'on prépare, que chaque chose doit être pesée, et vous nous dites, allez-y. Et donc, pendant les 3 premiers jours, c'était très lourd, hein, parce que nous n'arrivions pas à leur donner les clés, la clé des chants, la clé du vas-y, tu as un thème d'improvisation, tu as un héros, ce qu'on voit dans la scène, tu as un héros de l'Ukraine qui revient de la bataille, mais moi je veux voir ce héros. Et là je vois un notaire qui rentre avec sa petite serviette, enfin tu vois. Et tout d'un coup, à un moment, je dirais vers le 4e jour, il y en a un ou deux qui étaient en plus très doués, hein. c'était bon, ils étaient bien. Et il y en a un qui a compris. Il a compris en particulier la musique, parce que moi j'avais des musiques à leur proposer. Donc j'avais expurgé à grand-peine, je dois dire, les musiques russes. Et donc, ils avaient compris, il a compris quand même ce qu'il pouvait tirer d'une musique. Il m'a dit, je peux avoir cette musique? Je dis, ben oui, bien sûr. Et ils ont fait une entrée, un petit chœur comme ça, et ils avaient tout compris. C'était à la fois dessiné, et en même temps, il y avait un état, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir leur donner. Et ça a été, on la voit dans la... On en voit une partie dans le film.
Il y a eu un film de fait, oui, Au bord de la guerre, voilà. Qui a été fait en 2024.
Et dans le Au bord de la guerre, on voit cette improvisation, entre guillemets, et la façon dont, avec moi et d'autres comédiens du Soleil, peu à peu, elle se développe et elle va vers quelque chose que n'avait pas du tout prévu, mais qu'ils ont été tout à fait capables de suivre parce qu'ils sentaient les portes qui s'ouvraient au lieu que ce soit des portes qui se ferment. Donc voilà, l'école nomade, c'est ça au fond, c'est tenter de donner un outil de travail qui est le nôtre, en travaillant, je vous dis, le plus longtemps possible avec un groupe important, nombreux, de jeunes ou moins jeunes, comédiens expérimentés ou pas. Et j'en ai fait une à Amiens, à la Maison de la Culture d'Amiens, c'était formidable. Il y avait des gens de toute la région, y compris des amateurs. Et c'était merveilleux.
Que 1789 soit au programme du bac et de la spécialité théâtre en 2025, ça vous fait quoi ?
Ah, moi, je suis très fière. Je passe plus par les portes. Non, non, je suis très contente. On est très fiers. On est très fiers. Et je dois dire, quand on rencontre les lycéens qui font ça, quand ils sont... qui viennent voir le spectacle.
Ici sont les dragons.
Et ici sont les dragons. Donc, voilà, en 70, c'est 1789. En 2024-25, c'est ici sont les dragons. Ils font très, très bien le rapport et leurs questions, ils sont... C'est très bien, les spécialités théâtre. C'est vraiment très, très bien. C'est très encourageant, voilà. De discuter avec eux, de voir leur réaction au spectacle, la façon dont ils sont devenus et vont devenir encore plus ce que Brecht appelait des connaisseurs. Le cercle des connaisseurs. Il faut aider, vraiment, il faut soutenir ces spécialités théâtre dans l'enseignement, parce que c'est formidable.
En 2014, Mediapart avait publié des vœux pour l'année à venir que vous aviez écrits. Les vœux pour 2025, ce serait quoi ?
Vous me prenez de court.
Les vœux à la jeunesse et à la moindre.
Ça, je leur redirai, je crois. Je leur redirai, ne vous laissez pas dire que l'histoire est finie. Voilà. Ne vous laissez pas raconter ce bobard nuisible. Ne vous laissez pas dire ça et retroussez vos manches.
Merci beaucoup, Ariane Mnouchkine.
Je vous en prie.
Pour ces 5 entretiens.
Merci, Caroline.
C'était À Voix Nue avec Ariane Mnouchkine, réalisation Asia Weber, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.